Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires à l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. La résilience de l'information doit faire partie de la résilience nationale. Le gouvernement indonésien invite Nahdlatul Ulama à presser l'enseignement radical. Le commandant en chef de TNI a dit vivre dans l'état Pancasila était belle. La production de ferronickel Sulawesi du Sud-Est et Sulawesi Central est équivalent à l'Europe de l'Ouest. Avant la visite de travail du Premier ministre Abe à l'Indonésie, le président Jokowi prépare la coopération économique importante. La Russie est prête à développer la zone économique spéciale de Tanjung Api-Api. Voici le journal complet. L'information inappropriée diffusée par les médias sociaux a inquiété la nation indonésienne. Une information est censée de ne pas être diffusée directement par l'utilisateur des médias sociaux, mais elle est analysée d'abord. Donc, si l'information n'est pas bonne, l'utilisateur des médias sociaux ne diffuse pas de façon virale. Il est dit par le porte-parole de l'armée nationale indonésienne, le général de brigade TNI Sabrar Fadilah à Jakarta mercredi. Il a ajouté que l'Indonésie doit être capable de garder la résilience de l'information. Nous devons faire de la résistance de ces informations devient partie intégrante de la sécurité nationale à comprendre. Comme la nation, nous devons avoir assez d'informations et assez de résilience. Donc, s'il y a des informations inappropriées ou de mauvaises informations comme composante nationale, nous devons avoir le courage de le dire que cette information n'est pas bonne, alors nous ne diffuserons pas. En outre, le général de brigade TNI Sabrar Fadilah a également expliqué « L'information inappropriée par les médias sociaux est une perturbation pour l'Indonésie, même il est devenu proxy-guerre. Il a donc invité toutes les composantes de l'État à trouver la formule appropriée et de créer un système approprié que la résilience d'information peut être maintenue. » Le gouvernement indonésien invite l'une des organisations islamiques indonésiennes, Nahdlatul Ulama, à travailler ensemble pour agir contre le radicalisme dans le pays. Il a été révélé au cours de la réunion entre le chef de Nahdlatul Ulama, Saïd Akil Siroj, avec le président Joko Widodo, au palais présidentiel mercredi à Jakarta. Selon Saïd Akil, l'acte du radicalisme est devenu d'énormes préoccupations qui ont besoin du soutien des ulémas et des savants islamiques à répandre les enseignements islamiques modérés ainsi que l'esprit de tolérance. En outre, Saïd Akil Siraj encourage également la nécessité d'établir un programme national qui souligne la valeur de la démocratie et de tolérance à l'égard des étudiants et des enseignants.
Indikasi fenomena menguatnya Islam radikal.
Le phénomène du renforcement des enseignements islamiques radicaux est devenu notre préoccupation. Comment renforcer les enseignements islamiques modérés? Nous devons encourager le rôle des ulémas comme guides, enseignants et conseillères. Nous avons aussi besoin de programmes d'études à long terme. Comment mettre la valeur de Pancasila dans notre programme d'études national? En outre, Saïd Akil Siraj a déclaré qu'il existe des différences de compréhension entre les ulémas qui ont provoqué les grandes opportunités du développement des enseignements radicaux en Indonésie. Selon lui, les musulmans doivent se rendre compte que les principes islamiques enseignent la tolérance dans ces enseignements. En plus de cela, selon Saïd Akil, le président Joko Widodo a également demandé aux musulmans de travailler ensemble dans le traitement des conflits sociaux et la propagation du canular dans la communauté, en particulier par les médias. Le commandant en chef de l'armée nationale indonésienne, ou TNI, le général Gatot Nurmantio, invite tous les soldats à se cramponner à Pancasila parce que la vie dans le Pancasila est très belle. Cela était déclaré par le commandant en chef de TNI mercredi au siège de TNI à Cilangkap, Jakarta-Est. Le premier principe, la croyance en un Dieu unique, est vraiment remarquable, car dans le fond, toutes les religions enseignent de l'affection. Gatot Nurmantio a demandé à ses soldats de répandre l'affection dans le contexte de l'harmonie religieuse. La production de ferronickel et en acier inoxydable dans la province de Sulawesi du Sud-Est et Sulawesi Central sera similaire en Europe occidentale. Il a été dit par le ministre de l'Industrie, Airlangga Hartanto, après une visite de travail dans la zone industrielle Morowali, Sulawesi Central, et le forum du groupe de discussion à Kendari, Sulawesi du Sud-Est, mercredi. Selon lui, en ligne avec la politique du gouvernement liée à l'industrie en naval, y compris les produits minières, qui est mandatée par la loi sur les minéraux et du charbon, le fabricant de produits minières doit effectuer la transformation et la fonderie ou le raffinage des minerais qui sont produits avant qu'ils soient exportés. Le ministre Airlangga a aussi déclaré « Ceci était la preuve du sérieux de l'entreprise d'encourager la nouvelle industrie dans le domaine du traitement et du raffinage de la mine qui a absorbé en l'investissement jusqu'à 12 milliards de dollars américains. Sulawesi, en particulier dans le Sulawesi du Sud-Est et Sulawesi Central, est le plus grand centre de production de nickel. » Le gouvernement indonésien va augmenter la coopération économique avec le gouvernement japonais. Les deux pays discuteront de la coopération économique intense au moment où le président Joko Widodo accueillera le premier ministre japonais Shinzo Abe au palais présidentiel à Bogor, Java West, la semaine prochaine. Le premier ministre japonais se rendra en Indonésie la semaine prochaine, le 15 janvier 2017. La première visite d'Abe en 2017 vise à améliorer la coopération économique entre les deux pays. Concernant le programme de la visite de Shinzo Abe, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a expliqué mercredi que le président Joko Widodo souhaitait que la coopération puisse apporter les avantages pour les deux pays. Le premier ministre japonais qui viendra en Indonésie apportera des dizaines de chefs d'entreprise japonaises. Le secrétaire du Conseil national pour la zone économique spéciale, KEK, Enoch Suharto Pranoto, a dit que les investisseurs russes sont prêts à investir plus de valeur de 100 trillions roupias de développer KEK de Tanjung Api-Api dans le sud de Sumatra. C'est ce qu'a affirmé Enoch Suharto Pranoto, cité par Antara à Yogyakarta. En outre, d'autres investisseurs qui ont exprimé leur intérêt à investir à KEK Tanjung Api-Api et PT Indorama qui prévoit d'investir plusieurs dizaines de trillions roupias. Il a expliqué que KEK Tanjung Api-Api est situé dans la région de Banyu Asin, Samudra du Sud. KEK Tanjung Api-Api est une région spécifique dans la République unitaire d'Indonésie qui est fixée pour effectuer les fonctions économiques et acquérir certaines installations. La fonction de KEK est d'encourager le développement de certaines activités économiques dans le cadre de l'amélioration de la compétitivité nationale dans les domaines du commerce, des services, de l'industrie, des mines et de l'énergie, du transport, du maritime et de la pêche, la poste et les télécommunications, le tourisme et d'autres domaines. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. C'est Examen de l'antenne après le journal. Maintenant, vous pouvez écouter le commentaire. Et pour le titre, attendre la contribution des organisations internationales non gouvernementales. La fin de l'année dernière a marqué le début d'une nouvelle phase de fonctionnement des organisations étrangères ou organisations internationales non gouvernementales. En Indonésie, suite à la promulgation de la réglementation gouvernementale numéro 59-2016. Ce règlement arrange les organisations sociales fondées par des ressortissants étrangers ou entités juridiques ou WNA en Indonésie comme un règlement d'application de la loi numéro 17/2013. Il y a des soucis dans la communauté avec les organisations étrangères de se lancer des activités qui peuvent être préjudiciables à la nation indonésienne. Mais le gouvernement s'assure que le règlement actuel est plus complet en termes de contrôle et de supervision que les règles précédentes. Il est très indispensable au milieu des courants rapides de la mondialisation pour la nation indonésienne qui fait partie de la communauté mondiale. Basé sur les données du ministère indonésien des Affaires étrangères, il y a eu des douzaines d'organisations étrangères enregistrées en Indonésie. Essentiellement, le nouveau règlement n'a pas pour but d'ouvrir librement l'Indonésie aux activités des parties étrangères, mais il vise à fournir une protection juridique à obéir. L'Indonésie n'est pas fermée avec la délivrance de cette réglementation stricte, mais c'est une protection juridique considérée comme une forme de service afin que les parties intéressées puissent bien s'exercer. L'existence d'organisations étrangères doit être reconnue comme un couteau à double tranchant. Cela peut aider à résoudre le problème ou il peut également conduire à de graves problèmes. De plus, en Indonésie, il y a souvent des problèmes d'intervention étrangère qui se répandent dans presque tous les grands événements, comme la démission du premier président indonésien. Inévitablement, la société a besoin de la présence d'organisations étrangères. Comme les autres nations, l'Indonésie a des limites. En outre, dans le cadre d'une communauté mondiale, l'Indonésie ne vit pas seule. Le peuple indonésien se rend compte que la participation de la communauté mondiale est nécessaire pour que le développement soit couronné de succès. Les organisations étrangères devraient contribuer au dissimuler la pénurie de l'Indonésie dans certaines régions. Le développement dans chaque pays est censé être une préoccupation commune de la communauté mondiale. Cependant, l'échec du développement dans un pays peut affecter d'autres pays. En conséquence, cela peut même avoir un impact global, comme par exemple la gestion et la conservation de l'environnement. Un seul pays ne s'en soucie pas. L'impact sera progressivement ressenti par tous les citoyens du monde. À cet égard, l'Indonésie devrait être reconnaissante si de nombreuses parties étrangères manifestent des inquiétudes. Avec le nouveau règlement, il est probable que les organisations de masse étrangères en Indonésie démontreront leur meilleure contribution au développement de l'Indonésie. Chers amis, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous allons vous présenter maintenant les programmes aujourd'hui dans l'histoire de la Voix de l'Indonésie de l'édition du 2 janvier 2017. Nous allons commencer le 2 janvier 1932, guerre de Shanghai. La guerre de Shanghai débute le 2 janvier 1932. Elle oppose l'Empire du Japon qui vient d'envahir la Mandchourie à la République de Chine. Le Japon poursuit sa politique expansionniste à Shanghai, théâtre de nombreux incidents. La ville fut bombardée et attaquée. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont cessé le feu en vain. Le 3 mars 1932, le Japon remporte Shanghai. On chance le 2 janvier 1964, proclamation de la République de Zanzibar. Un soulèvement populaire met fin dans le sang au sultanat féodal de Zanzibar. Cette île, ancien protectorat britannique, a accédé à l'indépendance en décembre 1963. Des mois plus tard, une révolution aboutit à l'abdication du sultan et au massacre de milliers d'Arabes et d'Indiens. 3 mois après sera créée l'Union tanzanienne, regroupant l'archipel de Zanzibar dans l'océan Indien et le Tanganyika continental. Nous terminons notre aujourd'hui dans l'histoire ce soir, le 2 janvier 1976, a accordé le droit de participer au débat du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Assemblée générale des Nations unies a reconnu l'Organisation de la libération de la Palestine ou de l'Organisation de libération de la Palestine en tant que représentant du peuple palestinien par la résolution 3210 à la résolution 3236. Et puis, étant donné le statut d'observateur Organisation de libération de la Palestine, le 22 novembre 1974, par la résolution 3237 le 12 janvier 1976, le Conseil de sécurité des Nations Unies de voter et a réussi de 11 votes en faveur. 1 et 3 se sont abstenus, refusés de permettre l'OLP à participer au débat du Conseil de sécurité sans droit de vote. Les droits de vote sont des privilèges qui sont habituellement limités aux États membres de l'ONU. Ces auditeurs, c'était notre aujourd'hui dans l'histoire ce soir, la voix d'Indonésie, l'édition de janvier. À demain.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, encore merci de votre fidélité d'écouter la voix d'Indonésie. Avant d'écouter le rappel du titre de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point sur l'environnement.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « Les journalistes jouent un rôle stratégique pour introduire l'ASEAN ». Le directeur des affaires communication de l'Association des Nations Unies du Sud-Est ou ASEAN, M. Lee Yong-yong, a déclaré que les journalistes ont joué leur rôle très stratégique pour introduire cette institution afin de rapprocher de la communauté, notamment dans le cadre de la communauté économique de l'ASEAN qui a été convenue en décembre 2015. Il a été annoncé par Lee Yong-yong dans le discours d'ouverture lors de la réunion du conseil d'administration de la Confédération des journalistes de l'ASEAN, ou ACJ, le vendredi à Jakarta. Lee Yong-yong a déclaré qu'il a mené une enquête et les résultats sont moins de 75% de la population en général ne sait pas bien l'ASEAN. La plupart des gens dans les pays de l'ASEAN à comprendre le nom de cette organisation, mais ne sait pas ses activités, son avantage et ses programmes. Par conséquent, la participation des médias est cruciale en fournissant des informations précises sur l'ASEAN et les questions d'actualité dans la région et éviter des reportages biaisés. Selon lui, les journalistes jouent leur rôle important parce qu'ils peuvent améliorer et empêcher les gens de malentendus en ce qui concerne les questions actuellement en guidant la communauté à faire face aux défis et exploiter les opportunités créées par la communauté économique de l'ASEAN. Les journalistes et les médias peuvent aider les gens à développer des idées, prendre des décisions et de tirer profit de chaque occasion de la communauté économique de l'ASEAN. La réunion du Conseil d'administration de la Confédération des journalistes de l'ASEAN, ou ACJ, tenue à Jakarta, du 5 au 8 janvier 2016, qui a réuni des délégués des Philippines, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam. CAJ établie à Jakarta le 11 mars 1975 par la déléguée des pays membres de l'Organisation des journalistes nationaux de l'ASEAN. L'un des résultats de la réunion de CAJ est l'accord entre le Réseau des relations publiques de l'ASEAN, ou RRPA, et la Confédération des journalistes de l'ASEAN, ou CJA, pour renforcer la coopération dans le domaine des relations publiques et des médias. L'accord a été signé par le président de CAJ, Tuan Hu, et le président de RRPA, Prita Kemal Ghani, assisté par le directeur des communications pour l'ASEAN, Lee Yong-yong, vendredi à Jakarta, 6 janvier 2017. Selon Prita Kemal Ghani, l'accord entre CAG et RRPA est l'engagement commun pour faire face aux défis, réduire les différences et renforcer l'écart de la compréhension entre les pays membres de l'ASEAN. Chers amis, c'est à la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
L'information inappropriée diffusée par les médias sociaux a inquiété la nation indonésienne. Une information est censée de ne pas être diffusée directement par l'utilisateur des médias sociaux, mais elle est analysée d'abord. Donc, si l'information n'est pas bonne, l'utilisateur des médias sociaux ne diffuse pas de façon virale. Il a été dit par le porte-parole de l'armée nationale indonésienne, le général de brigade TNI Sabrar Fadilah à Jakarta mercredi. Il a ajouté que l'Indonésie doit être capable de garder la résilience de l'information.
Kita perlu menjadikan.
Nous devons faire de la résistance de ces informations devient partie intégrante de la sécurité nationale à comprendre. Comme la nation, nous devons avoir assez d'informations et assez de résilience. Donc, s'il y a des informations inappropriées ou de mauvaises informations comme composante nationale, nous devons avoir le courage de le dire que cette information n'est pas bonne, alors nous ne diffuserons pas. En outre, le général de brigade TNI Sabrar Fadilah a également expliqué « L'information inappropriée par les médias sociaux est une perturbation pour l'Indonésie, même il est devenu proxy-guerre. Il a donc invité toutes les composantes de l'État à trouver la formule appropriée et de créer un système approprié que la résilience d'information peut être maintenue. » Le gouvernement indonésien invite l'une des organisations islamiques indonésiennes, Nahdlatul Ulama, à travailler ensemble pour agir contre le radicalisme dans le pays. Il a été révélé au cours de la réunion entre le chef de Nahdlatul Ulama, Saïd Akil Siroj, avec le président Joko Widodo, au palais présidentiel mercredi à Jakarta. Selon Saïd Akil, l'acte du radicalisme est devenu d'énormes préoccupations qui ont besoin du soutien des ulémas et des savants islamiques à répandre les enseignements islamiques modérés ainsi que l'esprit de tolérance. En outre, Saïd Akil Siraj encourage également la nécessité d'établir un programme national qui souligne la valeur de la démocratie et de tolérance à l'égard des étudiants et des enseignants.
Indikasi fenomena menguatnya Islam radikal.
Le phénomène du renforcement des enseignements islamiques radicaux est devenu notre préoccupation. Comment renforcer les enseignements islamiques modérés? Nous devons encourager le rôle des ulémas comme guides, enseignants et conseillères. Nous avons aussi besoin de programmes d'études à long terme. Comment mettre la valeur de Pancasila dans notre programme d'études national? En outre, Saïd Akil Siraj a déclaré qu'il existe des différences de compréhension entre les ulémas qui ont provoqué les grandes opportunités du développement des enseignements radicaux en Indonésie. Selon lui, les musulmans doivent se rendre compte que les principes islamiques enseignent la tolérance dans ces enseignements. En plus de cela, selon Saïd Akil, le président Joko Widodo a également demandé aux musulmans de travailler ensemble dans le traitement des conflits sociaux et la propagation du canular dans la communauté, en particulier par les médias. Le commandant en chef de l'armée nationale indonésienne, ou TNI, le général Gatot Nurmantio, invite tous les soldats à se cramponner à Pancasila parce que la vie dans le Pancasila est très belle. Cela était déclaré par le commandant en chef de TNI mercredi au siège de TNI à Cilangkap, Jakarta Est. Le premier principe, la croyance en un Dieu unique, est vraiment remarquable, car dans le fond, toutes les religions enseignent de l'affection. Gatot Nurmantio a demandé à ses soldats de répandre l'affection dans le contexte de l'harmonie religieuse. La production de ferronickel et en acier inoxydable dans la province de Sulawesi du Sud-Est et Sulawesi Central sera similaire en Europe occidentale. Il a été dit par le ministre de l'Industrie, Airlangga Hartanto, après une visite de travail dans la zone industrielle Morowali, Sulawesi Central et le forum du groupe de discussion à Kendari, Sulawesi du Sud-Est, mercredi. Selon lui, En ligne avec la politique du gouvernement liée à l'industrie en naval, y compris les produits miniers, qui est mandatée par la loi sur les minéraux et le charbon, le fabricant de produits miniers doit effectuer la transformation et la fonderie ou le raffinage des minerais qui sont produits avant qu'elles soient exportées. Le ministre Erlanga a aussi déclaré « Ceci était la preuve du sérieux de l'entreprise d'encourager la nouvelle industrie dans le domaine du traitement et du raffinage de la mine qui a absorbé l'investissement jusqu'à 12 milliards de dollars américains. Cela aussi, en particulier dans le Sulawesi du Sud-Est et Sulawesi central, est le plus grand centre de production de nickel. » Le gouvernement indonésien va augmenter la coopération économique avec le gouvernement japonais. Les deux pays discuteront de la coopération économique intense au moment où le président Joko Widodo accueillera le premier ministre japonais Shinzo Abe au palais présidentiel à Bogor, Java West, la semaine prochaine. Le premier ministre japonais se rendra en Indonésie la semaine prochaine, le 15 janvier 2017. La première visite d'Abe en 2017 vise à améliorer la coopération économique entre les deux pays. Concernant le programme de la visite de Shinzo Abe, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a expliqué mercredi que le président Joko Widodo souhaitait que la coopération puisse apporter les avantages pour les deux pays. Le premier ministre japonais qui viendra en Indonésie apportera des dizaines de chefs d'entreprise japonaises. Le secrétaire du Conseil national pour la zone économique spéciale, KEK, Enoh Soeharto Pranoto a dit que les investisseurs russes sont prêts à investir plus de valeur de 100 trillions roupias de développer KEK de Tanjung Api Api dans le sud de Sumatra. C'est ce qu'a affirmé Enoh Soeharto Pranoto, cité par Antara à Yogyakarta. En outre, d'autres investisseurs qui exprimaient leur intérêt à investir à KEK Tanjung Api Api et PT Indorama qui prévoit d'investir plusieurs dizaines de trillions roupias. Il a expliqué que KEK Tanjung Api Api est situé dans la résidence de Banyu Asin, Samudra du Sud. KEK Tanjung Api Api est une région spécifique dans la République unitaire d'Indonésie qui est fixée pour effectuer les fonctions économiques et acquérir certaines installations. La fonction de KEK est d'encourager le développement de certaines activités économiques dans le cadre de l'amélioration de la compétitivité nationale dans les domaines du commerce, des services, de l'industrie, des mines et de l'énergie, du transport, du maritime et de la pêche, la poste et les télécommunications, le tourisme et d'autres domaines. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers auditrices et auditeurs de la Voix de l'Indonésie dans le monde entier. Veuillez écouter maintenant le magazine culturel. Cette fois, nous allons vous amener dans un voyage culinaire à Sumatra du Nord, afin de goûter Jong Labar, un gâteau typique de la tribu Batak-Karo. Batak, l'indigène de Sumatra du Nord, a une gastronomie diversifiée, notamment si tribu possède au moins 5 de sous-tribus. Et alors, vous pouvez imaginer combien de genres culinaires différents et typiques de Batak. Par conséquent, si vous visitez au nord de Sumatra, essayez à goûter les culinaires de chaque sous-tribu. Garanti, vous aurez certainement l'aimé, surtout si vous essayez de profiter de la gastronomie nommée Jong Labar, un culinaire unique de la tribu de Batak-Karo. Jong signifie en indonésien jagung, ou le maïs en français, Ce culinaire est certainement fait de maïs. Outre le maïs, on utilise également le sucre brun, la noix de coco râpée, le sel, le poivre noir et la feuille de banane comme un wrapper. D'abord, le maïs râpé ou haché grossièrement est mélangé avec le sucre brun et noix de coco râpée. Ensuite, ajoutez du sel et du poivre noir au goût. Ensuite, ce mélange est enveloppé dans des feuilles de bananier et cuit à la vapeur jusqu'à cuisson complète. Le maïs et le poivre, les deux principaux ingrédients de faire John Labar, sont faciles à trouver dans un quartier résidentiel de Batakaro, comme dans la région de Tanakaro. Ces deux ingrédients sont les produits principaux des paysans de Batakaro. Le bon arôme est immédiatement senti lorsque les feuilles de banane qui enveloppent ce culinaire sont ouvertes. Puis la collation rouge brunâtre avec des épis de maïs va apparaître. Les saveurs sucrées et salées mélangées avec la chaleur typique de poivre noir seraient senties immédiatement. L'utilisation de poivre dans le culinaire est bien adaptée aux conditions de vie des gens de Caro qui vivent habituellement dans les zones montagneuses. John Labar est habituellement présent dans une cérémonie de mariage et la célébration d'une nouvelle maison. John Labar n'est pas le culinaire inhabituel parce que dans John Labar contenait un certain nombre de sagesse des communautés autochtones de Caro. L'un d'entre eux est les sagesse de Mangkok Lawes Mangkok, qui signifie que toute personne qui donne une chose recevra une bonté. La signification de la tradition de Caro est de fournir John Labar comme un bon plat fait avec sincérité pour recevoir une bonne réponse des autres personnes. Et quelques bonnes choses seraient capables de renforcer l'unité et la force ensemble. Cette croyance est confirmée par la sagesse Bagi Buluh Belin Sada Dupuren. Cela signifie servir le plat sucré est une bonne foi d'établir une relation étroite et de partager la bonté. Chers amis, c'était notre programme magazine culturel intitulé John Labar en provenance de Sumatra du Nord. Merci à tous et à bientôt.
Bonsoir, chers amis, la voix de l'Indonésie dans le monde entier. Voici la couleur indonésienne. Et pour 12 janvier 2016, et le titre pour aujourd'hui, c'est Parc national Waikambas devient le 30e parc du patrimoine de l'ASEAN.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec l'Indonésie en couleur. Ce soir, nous vous présentons une information sur le parc national Waikambas devient le 36e parc du patrimoine de l'ASEAN. Donc, restez toujours avec nous, la voix de l'Indonésie. Le parc national Waikambas est situé à la pointe sud de Sumatra ou 110 km de Bandar Lampung. Waikambas, qui est l'un des premiers et plus anciens parcs nationaux en Indonésie, occupe 1 300 km² de forêt de plaine côtière autour de la rivière Waikambas. Wai, c'est-à-dire rivière. Kambas, c'est le nom, c'est-à-dire alors Waikambas, c'est la rivière de Kambas. Sur côté de la province Lampung, bien sûr. Ce parc national a été établi par le gouvernement néerlandais en 1937. Et ici vivent environ 200 éléphants de Sumatra, ou Elephas maximus de Sumatranensis. Par conséquent, ce parc national est connu comme un terrain d'entraînement de la conservation des éléphants. Chers amis, récemment, le parc national Waikambas était désigné comme le 36e parc du patrimoine de l'ASEAN lors de la réunion de l'ASEAN Heritage Park Committee 5 à Bandar Lampung le juillet dernier. Le parc de patrimoine de l'ASEAN est une zone protégée sélectionnée dans la région connue comme la biodiversité et des écosystèmes uniques et de la grande valeur. Le parc du patrimoine de l'ASEAN est donné comme un signe de haute appréciation de l'importance de la région en tant que zone de conservation. La détermination du parc national Waikambas comme un parc de patrimoine de l'ASEAN sera certainement un engagement conjoint avec la commission du parc du patrimoine de l'ASEAN de continuer à maintenir les processus écologiques et les systèmes de soutien de la vie. En outre, la détermination de Waikambas comme un parc du patrimoine de l'ASEAN vise à également à assurer l'utilisation des espèces et des écosystèmes d'une manière durable, la préservation de la diversité génétique, le maintien de la beauté naturelle, la culture et de soutenir l'éducation, la recherche et le tourisme dans le parc national Waikambas. En plus du parc national Waikambas à Lampung, en fait, il y a trois parcs du patrimoine de l'ASEAN en Indonésie, tels que le parc national Gunung Leuser à Sumatera du Nord et Aceh, le parc national Lawrence à Papouasie et le parc national Seblat Kerinci à Sumatera Ouest, Jambi, Bengkulu et Sumatera Nord. Une série d'activités de parc de patrimoine de l'ASEAN à Lampung qui a eu lieu du 25 au 27 juillet 2016 était l'audience du comité de chaque délégation représentant des pays de l'ASEAN et le dernier jour pour visiter le parc national Waikambas que des excursions sur le terrain directement ainsi que la mise en œuvre de la cérémonie de donner le nom au bébé rhinocéros sumatran qui est né il y a quelques temps à la place de reproduction de rhino au parc national Waikambas. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci beaucoup de votre attention et fidélité. Au revoir, à demain.
Rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Comme la fin de notre émission, voici le magazine musical.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix d'Imezi diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voe.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Dans cette édition, nous allons vous présenter le chanteur Frankie Ejen. Pour ouvrir notre rencontre, voici la première chanson intitulée « Pour le vent et l'oiseau ». Bonne écoute. Chers auditeurs, vous venez d'écouter sa chanson intitulée « Pour le vent et l'oiseau ». Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@vou.co.id, et nous vous invitons également à rejoindre la Voix d'Indonésie sur Facebook « Voice of Indonesia » ou à nous suivre sur Twitter « @voixindonesia ». Chers auditeurs, Frankie et Jane, les chanteurs duo avec des caractères de voix typiques qui est intégré de façon de synchronisation. Le caractéristique de voix et des chansons qui font ce couple comme chanteur en duo qu'il n'y a pas encore de remplacement à ce moment. Les chansons ballades de Frankie et Jane est si populaire dans ce pays. Bon, chers auditeurs, écoutons maintenant la chanson suivante de Frankie et Jane intitulée « Train de nuit ». Bonne écoute.
Yeah.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Frankie et Jane intitulée « Train de nuit ». Cette chanson raconte la séparation d'une mère avec son enfant pour toujours. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici la dernière chanson intitulée « Saison des fleurs ». Bonne écoute et à bientôt.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Ketika musim rindu anak-anak.
Gadis berkembang.
Toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.